Chers amis de RCF Vaucluse, bonjour. Nous nous retrouvons en ce dimanche 10 mars, en plein carême, et en compagnie de Anne-Marie. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Père Georges.
Et nous avions envie, alors que nous sommes cette année en décalage,
et oui.
Nous sommes encore dans ce que nous appelons nous la période du triode, qui nous prépare pendant 3 semaines à entrer dans le carême. Vous êtes déjà presque rendu à la résurrection, pas tout à fait encore. Donc on va parler ensemble des rameaux. Anne-Marie, avant d'échanger sur le thème de ce jour, vous intervenez assez régulièrement à mes côtés, et je vous en remercie d'ailleurs. Et j'avais quand même envie de dire... Mais qui est cette dame Anne-Marie ? Alors, je connais votre modestie, je sais que vous n'aimez pas vous mettre trop en avant. J'ai envie de dire 2-3 choses et puis vous compléterez.
D'accord.
Vous êtes une éminente hébraïste.
Oui.
Tout d'abord. Alors, je dis hébraïste pour ce qu'il s'agit de la langue, de la lecture, mais aussi de l'écriture.
Tout à fait.
Voilà.
Oui.
Et vous, d'ailleurs, vous animez des petites formations pour
voilà,
des gens
oui.
qui veulent progresser dans ce sens. Et vous êtes, me semble-t-il... ce que j'appellerais simplement, sans doute, de façon un peu réductrice, une espèce de trait d'union entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament.
Oui,
comme si vous étiez allé chercher, dans la lecture de l'hébreu et dans l'Ancien Testament, la force de faire rentrer davantage en vous le sens du Nouveau Testament et
tout
de la
fait.
Venue de Jésus.
Tout à fait. Ça permet d'ailleurs au texte de l'Évangile de prendre une plus grande profondeur quand on voit le soubassement qu'il y a venant du Premier Testament, de l'Ancien Testament.
Oui.
C'est assez impressionnant. Il y a des fois où on est vraiment très, très étonné. Et très réjoui de cette chose-là. C'est une manière, pour moi, c'est une manière de communion, le bouche-à-bouche dont parlait Moïse. Je ne voudrais pas faire des comparaisons un peu osées, mais ce bouche-à-bouche, c'est vraiment ce que je vis quand je traduis, quand je me plonge sur un texte hébreu ou alors grec, ou pour revenir à l'Évangile. Mais c'est vraiment une manière de faire le lien entre ces deux testaments. C'est quelque chose qui me réjouit le cœur.
Ouais.
Et assez curieusement, ça me permet de rencontrer des gens qui oscillent entre le monde juif et le monde chrétien. Une jeune amie me disait, mais pour moi c'est important parce que tu es un pont entre les deux. Donc ça rejoint tout à fait ce que vous disiez.
Oui, nous avons d'ailleurs eu des points de rencontre communs avec un ami avant qu'il ne s'éteigne.
Oui.
Bien.
Mais c'est pas la seule personne qui est
dans
ce créneau-là.
Oui, j'entends bien. Oui. Ils sont nombreux, en fait.
Oui, c'est
voilà. Alors, je crois que c'est important pour nos amis auditeurs qu'ils sachent un peu et qu'ils comprennent un peu qui sont ces personnes qu'ils entendent et qu'ils ne connaissent qu'à travers un prénom. Ce préalable, nous ayant mangé déjà un tout petit bout de temps, peut-être nous attaquons directement dans le vif du sujet.
Tout à fait.
Ces rameaux qui suivent pour nous le samedi de Lazare.
Oui.
Voilà. Alors.
Eh bien, ces rameaux, ils sont d'abord annoncés. D'ailleurs, c'est un texte qu'on lit aux Vêpres le samedi soir, avant le dimanche des rameaux, de Zacharie 9:9. Tressaille d'allégresse, fille de Sion. Pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, tout jeune, le petit d'une ânesse. Donc ça, c'est le texte de Zacharie.
Oui.
Donc, c'est exactement, ça sera, la fête des rameaux est calquée sur tout au moins l'image est calquée sur ce verset. Et bien sûr, le personnage qui s'avance apparaît comme un libérateur d'Israël à l'époque. Et ça fait écho à l'Évangile, aux 3 synoptiques de l'Évangile.
Oui.
On peut citer Matthieu.
Oui, Matthieu en 21, dans les versets 1 à 4, dit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagé, au mont des Oliviers, alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-la et amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. »
Voilà. Et je trouve que, au début, ça me choquait un peu, cette histoire, que c'est, le Christ a vraiment très, très insisté pour avoir cet anneau pour entrer dans Jérusalem. Au début, je me disais, c'est quand même un peu curieux, pourquoi ? Donc le pourquoi, bien sûr, c'est pour que s'accomplisse l'écriture du prophète Zacharie. Mais je pense que ça dépasse cette chose-là. D'abord, il est question des fois d'un âne et des fois d'un anon. Et même Saint-Luc ajoute un anon sur lequel personne n'était monté. Pour moi, ça fait écho à Jésus qui dit « Je ferai toute chose nouvelle ». C'est une manière de l'exprimer, je vais dire.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et alors, cet âne dont il est question... J'ai envie d'en parler en hébreu, si vous permettez.
Je vous en prie.
Parce que le mot âne en hébreu, c'est ramor, c'est-à-dire un mot qui a exactement donné naissance au mot la matière. Donc, c'est intéressant de voir le lien entre les deux, je trouve. Parce que finalement, quand Jésus monte à Jérusalem, en venant du bas du mont des Oliviers pour monter au mont Moria, eh bien, c'est comme s'il élevait la matière. Il allait... C'est une manière de voir.
Oui, non c'est, je ne crois pas que ce soit qu'une manière de voir. Je crois qu'effectivement, nous savons que dans la compréhension des Écritures chez les Juifs, les mots ont une multitude de sens. C'est donc une façon de le dire. Mais c'est vrai que vous apportez à travers ce ressenti et ce creusement incessant que vous faites autour des mots et des mots des origines.
Tout à fait,
Des lumières qui, moi, m'ont souvent apporté, quand je me suis aperçu, après que vous m'ayez éclairé, que nous travaillons parfois sur des traductions qui disent presque autre chose.
Qui sont réductrices.
Oui. Je me souviens de... je ne sais plus quel est l'évangile, ça c'est l'âge, mais... M'aimes-tu ? Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Et en fait, Pierre, m'aimes-tu ? Non, la troisième fois, ce n'est pas Pierre, m'aimes-tu ?
Oui, c'est le grec, là.
Pierre ne peut pas comprendre. Oui. Et là, ça vient du grec.
Oui.
Mais ça vient du grec, mais effectivement, puisque c'est un évangile.
Oui.
Mais notre traduction dit autre
bien
chose
sûr.
Et n'a pas le même sens.
Ah non,
et on
sûr,
a les mêmes choses en hébreu.
Oui.
Voilà,
oui,
c'est ce que je voulais dire.
Tout à fait. Et alors, cette image de l'âne qui est... que Jésus utilise pour monter au mont Moria à Jérusalem, eh bien, m'a fait penser à l'âne qu'avait Abraham quand il est parti sous l'injonction divine pour, croyait-il, offrir son fils en sacrifice, aussi au mont Moria.
Oh, là, il y a effectivement un télescopage des images qui n'est pas neutre.
Oui, voilà, tout à fait.
Oui, puisque le fils lui-même va s'offrir là,
exactement,
réellement.
Exactement, oui. Mais par contre... Abraham a laissé l'âne en bas. Il a sanglé son âne très tôt le matin, il est parti avec ses serviteurs, mais il a laissé l'âne au pied de la montagne. Et pour moi, Abraham, avec tout le respect que j'ai pour Abraham, eh bien, c'était trop lourd pour lui de faire monter l'âne au-dessus. Il n'y a que Jésus qui a pu le faire.
D'accord.
Je pense...
D'accord. Quelques centaines d'années, milliers d'années plus tard.
Oui.
Intéressant. Alors, Jésus va entrer à Jérusalem. Vous venez d'évoquer Abraham. Et demeurez ici, vous, avec l'âne.
Oui.
Il y a un sens particulier là-dessous que vous avez envie, parce que c'est... On accueille l'humilité suprême et on accueille le Seigneur de gloire.
Oui, mais demeurer avec vous, avec l'âne, c'est un peu comme s'il y avait une partie un peu matérielle, une partie de matière, puisque l'âne ramor, c'est la même chose que la matière, qui n'arrivait pas à monter jusqu'au mont Moria.
Oui.
Le serviteur a un côté un peu... Pas subalterne, mais enfin non accompli, je dirais.
Oui. Je crois aussi, enfin, c'est un ressenti personnel, là, que lorsqu'on dit comme ça, demeurez ici, vous, avec l'âne, c'est aussi une façon dont s'exprime la tradition d'accueil judaïque et la tradition d'accueil dans ces pays-là, mais c'est aussi le message du Christ, c'est l'accueil ouvert, total, du Seigneur, c'est l'attitude que nous devons tous avoir d'accord. vis-à-vis du Seigneur.
D'accord,
ça me fait penser, ça me fait penser à cela.
Oui, oui, d'accord.
Alors, en fait, pendant longtemps, les gens ne sont pas étonnés de voir monter Jésus.
Non. Enfin, ils ne sont pas étonnés. Et surtout, moi, ce qui m'a étonné après coup, c'est qu'il y avait une foule terrible et puis des gens qui avaient des rameaux partout. Enfin, des rameaux, des palmes.
Des palmes, oui.
À l'époque, c'était plutôt des branches de palmiers.
Oui.
Et donc, après coup, je me suis dit, mais pourquoi il y a... Alors, qu'il y ait autant de foules, ça peut se comprendre, puisque Jésus en Galilée avait guéri, il y avait des foules qui l'accompagnaient. On peut comprendre qu'il y avait des foules qui l'accompagnaient en Galilée, mais qu'elles soient déjà là à Jérusalem, déjà c'est plus étonnant. Et qu'elles soient là avec des palmes, c'est encore plus étonnant qu'il y en ait beaucoup. Qu'il y en ait beaucoup. Et à mon avis, on a un début d'explication avec l'évangile de Jean, dans Jean 12-13,
Oui, le lendemain, la grande foule venue à la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Oui.
Voilà. Oui. Donc, venu à la fête.
Oui.
Donc, ça laisse supposer qu'il s'agit d'une des trois fêtes de pèlerinage.
Oui.
Pessah, Pâques.
Oui.
Shavuot, Pentecôte.
Fête des tentes
Non, ou Soukhot,
fête des tentes. Voilà. Et Soukhot, fête voilà, des tentes, oui, oui, ça. Tout à fait.
Donc, je pense qu'il s'agit plutôt de Soukhot.
D'accord.
Parce qu'à Soukhot, on dit exactement la phrase que disait la foule.
Oui, oui.
Peut-être que...
Non. Oui.
Hosanna, enfin, Hosanna, au plus haut des cieux, enfin, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Et nous écoutons un chant de la Semaine Sainte, un chant byzantin. La Semaine Sainte approche, nous pouvons partager ça ensemble.
Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματα σου επί
Anne-Marie. Alors, nous venons de parler de ces palmes, nous venons d'évoquer rapidement les trois grandes fêtes.
Oui.
Et peut-être un mot sur ces fêtes, leur sens ou l'une d'entre elles.
Alors, celle qui nous intéresse ici, c'est celle de Soukhot.
Oui.
Alors, bien sûr, Soukhot, ça veut dire les cabanes. Et les Juifs sont invités, quand ils le peuvent, bien sûr, s'ils ont un jardin ou un balcon, à construire une cabane pour y vivre le plus possible pendant les jours de Soukhot, qui sont 8 ou 10, je ne sais plus. Et pour inviter aussi, c'est aussi l'hospitalité. Mmh. Et à certaines cérémonies de la fête de Soukhot, eh bien, le monde juif a quatre branches plus exactement, qu'ils agitent en disant exactement la phrase que nous disons. Hosanna, fils de David.
Oui, Hoshana, pas Hosanna. Voilà. Oui.
Oui, voilà.
Oui, pardon.
Enfin, en hébreu.
Voilà, bien sûr.
On fera le lien avec le verbe.
Donc, des branches de quatre végétaux différents,
voilà,
en fait.
Voilà, c'est ça.
Voilà, alors le sol, le palmier, la myrte.
Voilà, et l'étrogue, le citron.
Voilà, d'accord, et le citron, oui.
Et alors, c'est vrai que symboliquement, ça, pour le monde juif, ça représente qu'il prie en communauté avec toutes les catégories de juifs.
D'accord.
Celui qui paraît un peu, qui a une bonne odeur, enfin, comme la myrte, mais qui n'a pas de fruits. Le palmier, par contre, qui n'a peut-être pas beaucoup de fleurs ou qu'on ne voit pas trop, mais qui a des fruits.
Qui n'est pas très odoriférant.
Voilà, mais qui a des fruits.
Oui.
Donc, il y a des bonnes actions. Et le saule qui n'a ni l'un ni l'autre, mais qui est là quand même et qui est pris en main par tout le peuple pieux qui va prier. Et l'étrogue qui est le parfait, le petit soleil.
D'accord, le citron, oui.
Voilà.
Alors, nous...
Et donc, elles sont agitées dans les six directions, nord, sud, est, ouest, et haut et bas. Donc, elles sont agitées. Donc, on voit bien que ça fait écho à la... à ce qui se passe pour la foule qui accueille Jésus. Alors bien sûr, elle accueille Jésus en tant que libérateur. Donc, Hoshana, en fait, la traduction de base, ça vient du verbe yasha qui veut dire sauver. Donc, le premier sens, c'était « sauve-nous donc ».
Oui.
Le na ayant le même sens que pour nous, « sauve-nous, na ».
D'accord.
Et donc, au début, le peuple qui entourait Jésus voulait justement qu'il le sauve de l'occupation romaine.
Absolument.
Et qu'il rétablisse la royauté humaine. Il n'avait pas compris ce qui allait se passer du tout.
Bien évidemment.
Donc c'est ce qui explique un peu le retournement peut-être après. Voilà. Et donc Hoshana, je pense que c'est intéressant de faire... L'hébreu permet de faire des liens avec ce mot que nous on dit Hosanna, qui est un petit peu... J'allais dire affadi, je ne devrais pas dire ça, un peu atténué comme...
C'est la façon dont nous nous le sommes appropriés.
Oui, c'est ça, voilà. Et alors, ça a le même... le nom de Jésus vient exactement de ce verbe. En hébreu, c'est Yeshua.
Yeshua, oui.
Qui veut dire le salut.
D'accord.
Donc, je pense que c'est intéressant, en passant par l'hébreu, de savoir que Hoshana... Et,
viens nous sauver, toi le sauveteur.
Oui, Jésus.
Ou le sauveur, pardon.
Le lien entre les deux, je pense, c'est intéressant de les voir.
Oui, oui, absolument. Alors, en fait, ces fêtes aujourd'hui ont changé de date. Choukot, c'est plus au printemps que ça
non,
se...
Non, voilà.
Hein,
oui,
c'est
oui.
Des choses qui ont évolué avec le temps.
Voilà, alors on avait posé la question au rabbin d'Avignon, où il avait fait une conférence sur Choukot, et donc, il nous avait expliqué effectivement que normalement, ça célébrait l'errance dans le désert. Et donc, c'était quelque chose qui devait être après le passage de la mer Rouge, donc plutôt au printemps. Et donc, on lui avait demandé pourquoi ça se fêtait en général en septembre-octobre, ça dépendait des... Alors, il nous avait expliqué que c'était parce que le judaïsme voulait qu'elle se passe après, quelques jours après Yom Kippour.
Oui,
le jour du grand pardon.
Le jour du grand pardon,
voilà.
Qui
donc,
dure lui-même... Enfin, le jour du grand pardon, c'est un jour, mais...
Les dix jours avant,
voilà.
Le peuple juif est invité à se réconcilier, à demander pardon.
Avec tous. Et le dernier jour avec Dieu.
Avec Dieu, voilà, c'est ça. Et donc, il fallait que Soukhot se trouve après cette demande de pardon avec Dieu. Et j'avais trouvé que ça rejoignait ce que nous... Notre calendrier, puisque les rameaux clôt le carême. Non, oui, c'est ça, les rameaux clôt le carême.
Oui.
Et par contre, on commence le carême avec le dimanche du pardon.
Absolument, oui, oui,
donc,
oui.
Je
oui,
trouve
oui.
que
oui, oui.
on a, même si on ne le sait pas, il y a des liens qui existent entre
oui.
les calendriers.
Alors, le dimanche du pardon, effectivement, qui est chez les orthodoxes, puisque nous sommes là
oui.
aussi pour partager...
Voilà.
Notre tradition
oui.
et pour faire comprendre qui est donc une liturgie résurrectionnelle classique dominicale, mais qui se termine par un office particulier
voilà.
où le prêtre demande pardon à ses fidèles, où les fidèles demandent pardon à leur prêtre
oui.
et où tous les fidèles se demandent pardon entre eux
voilà.
avec
oui.
force Metani, inclinaison, mais ça c'est l'orthodoxie. Mais symboliquement aussi, l'expression du corps qui se met dans une position d'humilité réelle et matérielle, qui matérialise cette humilité, aide à faire descendre en nous ce sentiment, cette volonté humaine que nous avons envie d'exprimer, mais qui pourrait être plaquée. C'est beaucoup plus difficile de plaquer des sentiments sur des gestes qui les accompagnent.
Tout à fait.
C'est d'ailleurs des choses dont nous discutons parfois avec nos frères catholiques sur le sens de multiples inclinaisons, de multiples signes de croix et du sens que ça peut avoir. Et c'est ce temps que nous mettons parfois parfois tout le temps, devrais-je dire, c'est ce sens que nous mettons au cérémonial qui aide à faire descendre en nous et à creuser finalement ce qui va nous éclairer, qui est la présence de Dieu en nous,
tout à fait.
Celle qui nous illumine véritablement. Anne-Marie, je ne sais comment vous remercier. J'ai envie de souhaiter à nos frères d'autres confessions une bonne fin de cette période de carême qui, effectivement, parfois se réduit à une simple attente, peut-être, de la résurrection, mais ce qui sera au bout est notre joie commune et notre certitude commune.
Lumineuse.
Lumineuse, absolument. Merci beaucoup à vous, Anne-Marie.
Avec plaisir.
Non.